Bonjour à tous et bienvenue pour cette session que nous avons appelée la Galaxie Gallica, programmes et services numériques pour une coopération nationale renforcée. C'est une présentation que nous allons faire à trois voix. Je suis Aline Gérard, directrice du département de la coopération de la BNF, c'est-à-dire le département qui met en œuvre la politique de coopération nationale de la BNF, aujourd'hui essentiellement coopération numérique. J'interviendrai avec Guillaume Godet, qui au sein du département de la coopération est chef de projet services numériques aux bibliothèques et aux éditeurs. Et nous avons ouvert la tribune à Françoise Muller, directrice de la médiathèque de Moulins Communauté, partenaire numérique de la BNF, qui va présenter avec nous son expérience de coopération autour de programmes de numérisation. Donc une intervention à trois voix. Nous allons nous succéder au pupitre et c'est Guillaume Godet qui va ouvrir la présentation avec quelques informations sur Gallica, bibliothèque numérique collective.
Bonjour à tous. La présentation serait faite en trois parties. On parlera d'abord de Gallica comme bibliothèque numérique collective. Ensuite, on présentera la galaxie Gallica, donc tous les satellites qui tournent autour du soleil, si je puis dire, Gallica. Et ensuite, on essaiera de vous donner un petit peu envie en vous présentant les futures fonctionnalités qui seront mises en place sur le site. Fonctionnalités qui, on l'espère, modifieront l'accès à la bibliothèque numérique. Alors Gallica est de plus en plus une bibliothèque numérique collective. Elle l'est depuis le début du projet, puisque dès le départ, les premières collections numérisées par la BNF provenaient de bibliothèques partenaires qui prêtaient les collections physiques pour qu'elles soient numérisées dès les années 90, les marchés de la BNF. Cette dimension collective de Gallica s'est considérablement accrue ces dernières années. Aujourd'hui, on compte un peu plus d'une centaine de partenaires numériques de Gallica. Donc il y a différents types de partenariats que je vais vous présenter maintenant. Donc là, vous avez aujourd'hui, depuis avant-hier, une nouvelle page d'accueil de Gallica avec une mise en avant de ce caractère collectif de Gallica, où vous voyez tous les logos des partenaires numériques de la BNF. Alors aujourd'hui, le caractère collectif de Gallica s'exprime sous différentes formes. Et là, vous avez un tableau qui vous montre les différentes sources et les différents modes d'accès aux documents numérisés dans Gallica. Alors, vous avez d'un côté des documents du domaine public qui sont consultables intégralement dans Gallica. En haut à droite, vous avez des documents qui sont sous droit et dont les droits ont été négociés pour qu'ils soient consultables intégralement dans la bibliothèque numérique avec toutes les fonctionnalités de consultation, de recherche de Gallica. En bas à gauche, vous avez des documents qui sont du domaine public, mais qui peuvent être consultés sur des sites extérieurs. Donc là, quand vous faites une recherche dans Gallica, vous tombez sur une liste de résultats et vous allez pouvoir découvrir d'autres bibliothèques numériques dont les contenus sont simplement référencés, indexés dans Gallica. Et en bas à droite, des documents qui sont sous droit, mais qui ne peuvent être consultés que sur les sites des e-distributeurs, qui sont les distributeurs numériques des éditeurs. Donc là, on a à peu près l'intégralité de tous les e-books du marché qui sont référencés dans Gallica. On peut consulter un extrait, en général 10% du livre, et on bascule sur une plateforme extérieure pour feuilleter quelques passages et acheter éventuellement le livre. Alors, pour les documents du domaine public consultables dans Gallica, là vous avez trois sous-parties. Donc évidemment les collections patrimoniales de la BNF numérisé par la BNF. Donc là, c'est la grande majorité des collections consultables sur le site. À peu près 90% des collections sont du domaine public, gratuites, consultables dans Gallica et proviennent des collections de la BNF. Ensuite, vous avez Une partie qui est en forte augmentation, là ce sont les collections physiques des partenaires qui sont numérisées par la BNF. Donc là je reviendrai sur ces partenariats qui permettent de numériser plusieurs milliers de documents de 86 bibliothèques chaque semaine. Et ensuite vous avez les collections des partenaires numérisées par leurs soins, mais qu'on va essayer d'intégrer dans Gallica, pour qu'ils soient consultables dans Gallica. Donc, tous ces documents-là sont indexés, vous pouvez les trouver à partir du moteur de recherche, mais après, vous avez différents modes d'accès et de consultation selon le caractère juridique et les conditions techniques de consultation. Donc, ce schéma, ça peut paraître un peu compliqué, mais on va revenir pour vous expliquer en détail chacune des sources et chacun des modes d'accès aux collections. Alors, voilà un graphique assez impressionnant qui vous montre l'énorme accroissement du nombre de documents depuis 2007. En 2007, vous pouviez consulter entre 200 et 300 000 documents, ce qui était déjà une bibliothèque numérique de très grande importance. Et à partir de 2007, là, il y a eu vraiment un accroissement considérable de la masse documentaire accessible à partir du moment où la BNF s'est lancée dans des grands programmes de numérisation des imprimés, donc des livres, des périodiques. Donc il y a eu deux marchés successifs, un entre 2007 et 2011, et l'autre qui court encore jusqu'en 2014. Et donc ce sont ces marchés qui permettent d'accroître considérablement le nombre de livres et de revues consultables. Mais à côté de ces marchés de masse, ce qu'on appelle de masse ou des marchés de numérisation en nombre, vous avez d'autres marchés de numérisation sur les collections spécialisées, donc les cartes, les plans, etc. Donc là, vous avez un graphique qui vous montre la répartition des documents consultables par type. Donc vous voyez que les livres, les monographies, c'est le type de document le plus présent, avec 45% des documents consultables. Mais vous avez aussi, dans Gallica, 65 000 cartes numérisées en haute définition, aujourd'hui toujours numérisées en couleur, qui sont extrêmement belles à voir, 36 000 manuscrits, 818 000 images, 1 131 000 fascicules de presse et de revues, vous avez toutes les grands titres de presse quotidienne, et puis un nombre assez énorme de titres de presse dans tous les domaines, beaucoup de revues, des partitions, alors 3000, ce qu'on appelle paroles et musique, là ce sont des enregistrements sonores, donc vous voyez qu'aujourd'hui on arrive à un peu plus d'1 500 000 documents consultables, donc ce qui en fait 2 500 000, pardon, ce qui en fait la plus importante bibliothèque numérique publique au monde. Alors là je vais relaisser la parole à Aline pour qu'elle vous parle des programmes de numérisation concertés.
Merci. Donc, la coopération numérique autour de Gallica, c'est notamment des programmes de numérisation concertée qui sont proposés aux autres bibliothèques françaises, complémentaires des programmes menés par la BNF. Guillaume m'en a parlé, un gros effort sur la numérisation des collections patrimoniales de la BNF depuis 2007. Donc, en complément de cette numérisation BNF, nous proposons aux autres bibliothèques de s'associer à cet effort national, si j'ose dire, pour produire de manière collaborative les contenus numériques les plus riches et complets possibles, avec un projet documentaire, car il y a bien derrière cette entreprise un projet documentaire qui vise dans certains domaines documentaires à atteindre l'exhaustivité, bien évidemment sur un calendrier long. Et un des deux autres principes, c'est que nous travaillons sur la base d'une complémentarité des sélections documentaires BNF, autres bibliothèques, l'idée étant bien évidemment de réunir ces collections de sources différentes dans Gallica. Un projet documentaire, mais aussi un projet culturel et scientifique, car il y a plusieurs... ce projet culturel se décline selon différents termes, mais l'un des principaux objectifs est de rendre plus visible sur Internet la culture et la langue française, et donc de contrebalancer, autant que faire se peut, une sorte de monopole anglo-saxon. La numérisation concertée s'organise autour de différents types de programmes que je vais décliner très rapidement devant vous, dont des programmes thématiques structurants développés à l'échelle nationale. Voici la liste des programmes qui sont en cours. Nous allons en ouvrir d'autres, notamment en 2013 avec un programme autour de la littérature patrimoniale pour la jeunesse. Mais au cours des années suivantes, d'autres viendront. Et ces programmes s'organisent de la manière suivante. J'ai pris deux exemples pour vous montrer comment on travaille sur ces programmes thématiques de grande ampleur. Les sciences juridiques et l'histoire de l'art. Il y a toujours un copilotage avec une institution documentaire de référence dans la discipline. Les axes documentaires sont définis avec le copilote et avec une commission scientifique. Et ils peuvent s'organiser de manière différente, comme vous le voyez ici. Pour le droit, c'est par la définition de sous-domaines documentaires et pour l'histoire de l'art, par type de document. Donc l'exhaustivité est visée de quelle manière? Par exemple, dans le cadre de ces programmes, nous allons numériser l'intégralité des catalogues de vente français qui sont... dans les collections de la BNF et dans les collections de l'INHA, mais aussi dans les collections des autres bibliothèques. Pour les sciences juridiques, nous prévoyons de numériser l'intégralité du droit coutumier présent dans les autres bibliothèques. Et ce sont des programmes de longue haleine, mais qui avancent rapidement. Un autre programme qui, là, est susceptible de vous intéresser vivement. C'est un programme en histoire locale et régionale, complémentaire donc de la numérisation des ressources de la BNF qui sont considérables dans ces domaines. Donc nous numérisons avec nos partenaires et principalement les pôles associés régionaux de la BNF des imprimés en histoire des territoires. Et nous numérisons également l'intégralité des publications des sociétés savantes locales et régionales. Aujourd'hui, dans Gallica, 900 titres de sociétés savantes et à peu près 5 millions de pages. À côté de ces programmes ambitieux d'intérêt national, des programmes plus ciblés, mais qui sont tout aussi intéressants, qui portent là sur des corpus plus réduits et la visée d'exhaustivité est également présente ici. Donc je vous ai fait une petite liste des programmes nationaux et des programmes européens à extension nationale, si je puis dire. Et pour illustrer cette démarche, deux exemples. Le programme qui concerne les portulans. Donc l'objectif de ce programme est de numériser, donner accès à l'intégralité des cartes marines et puis les portulans présent dans les collections françaises, tout d'abord celle de la BNF, qui a accompagné la très belle exposition que certains d'entre vous ont peut-être vue cet hiver. Donc 500 cartes, et en complément, l'intégration progressive dans Gallica des 80 portulans présents dans les autres bibliothèques. Nous avons intégré les portulans du service historique de la Défense, ceux de la BM de Lyon et d'autres viennent. Donc c'est un programme, un très beau programme, d'une très grande qualité scientifique et esthétique. Autre programme, européen à extension nationale. Vous avez peut-être entendu parler d'Europeana Regia qui vise la numérisation de l'intégralité des manuscrits carolingiens et autres dans plusieurs pays européens. La BNF a contribué en numérisant ses propres collections et en numérisant les collections de 19 bibliothèques françaises ayant ces manuscrits. Donc vous avez la liste ici, Valenciennes, Amiens, Reims, etc. Voilà deux exemples de programmes. Ces programmes permettent d'alimenter Gallica et les modes d'entrée dans Gallica sont multiples. Il y en a trois principaux donc, que nous allons vous présenter. Tout d'abord, comme Guillaume l'a dit au tout début, l'intégration de documents imprimés prêtés par des bibliothèques dans les marchés de numérisation de la BNF. Notre marché de numérisation est ouvert pour un tiers aux bibliothèques partenaires. C'est un marché qui est financé sur crédit du Centre national du livre. Un tiers, cela fait à peu près 60 000 documents imprimés. Donc nous arrivons au terme du deuxième marché et nous aurons numérisé à peu près 9,5 millions de pages mises à disposition par des bibliothèques françaises, donc mises à disposition des collections physiques, documents pleinement intégrés dans Gallica et référencés dans Europeana. Voici un exemple de partenaire qui a mis des dispositions, des collections à disposition et qui est présent dans Gallica. Il s'agit de la ville de Paris. Les collections sont présentées dans un environnement numérique personnalisé, entièrement aux couleurs du partenaire, avec son bandeau, avec des logos. Vous êtes néanmoins dans Gallica. Et les documents de la ville de Paris voisinent avec les documents de la BNF et des autres bibliothèques. Autre mode d'entrée dans Gallica, je vais redonner la parole à Guillaume.
Alors, le deuxième mode d'intégration.
Anne Girardet est demandée de toute urgence au commissariat général. Merci, Anne Girardet.
Donc, le deuxième mode d'intégration de documents de partenaires dans Gallica, c'est l'intégration des documents déjà numérisés, donc là, des fichiers numériques dans Gallica. Donc là,
attention,
ce projet est parti du...
Essayez.
Vous m'entendez là ou je peux continuer? Non. On va attendre la fin de l'annonce.
Voilà. Bon.
Donc, nous parlions du deuxième mode d'intégration dans Gallica de documents de partenaires. Donc là, c'est on est parti du constat que beaucoup de bibliothèques avaient numérisé des documents, avaient des fichiers, souvent des fichiers sur CD-ROM ou qui traînent dans les tiroirs. Et la bibliothèque n'a pas de bibliothèque numérique. Et elle souhaite...
Attention. Deuxième annonce très importante. À partir de ce matin, et cela jusqu'à 16h,
Il charrie, là, franchement.
Le est ouvert. Sur les stands des exposants, que nous remercions chaleureusement de leur coopération, vous trouverez, en cherchant un petit peu, de très jolis petits sacs en tissu, rayés, à pois, fleuris, unis. La personne qui ramènera le plus de petits sacs au stand ABF se verra remettre à l'Assemblée Générale ce soir un lot unique, un magnum de Cornas, année 2004.
J'espère que c'est nous qui allons gagner le magnum. Nous l'aurons mérité.
Alors, revenons à nos fichiers numérisés.
Vous pouvez déposer les petits sacs à la tribune à la fin de la session.
Donc, les bibliothèques ont numérisé des fichiers. Les fichiers ne sont pas en ligne puisque la bibliothèque n'a pas de bibliothèque numérique. Là, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir récupérer ces fichiers et les intégrer dans Gallica. La difficulté de ce projet, c'est que toutes les chaînes d'intégration, toutes les chaînes informatiques pour pouvoir afficher des documents dans Gallica ont été conçues pour les marchés de la BNF, donc selon nos critères, c'est-à-dire les formats de fichiers qu'on impose, etc., etc. Donc c'est difficile de faire rentrer des fichiers qui n'ont pas été numérisés selon le même cahier des charges techniques. dans cette chaîne, ce qu'on appelle les chaînes d'entrée des documents numériques de la BNF. Donc on a fait un premier test avec des manuscrits numérisés par l'Assemblée nationale, c'est des manuscrits de Rousseau, en 2011 et 2012, donc c'était pour l'année Rousseau en 2012. On a réussi à faire rentrer ces fichiers numérisés à l'extérieur d'Angelica. Bon, on s'est rendu compte que le moyen de les faire rentrer n'était pas forcément extensible à d'autres bibliothèques, donc on a retravaillé à une nouvelle chaîne d'intégration. Et donc en 2013, on va pouvoir commencer des tests pour intégrer les fichiers via l'espace coopération, qui est un extranet que nous avons mis en place pour permettre à nos partenaires de gérer les différents services numériques proposés avec la BNF. Donc il y aura deux grands projets pour cette année. D'une part, l'intégration des fichiers numériques de la BNU de Strasbourg, puisqu'on a un partenariat avec la BNU de Strasbourg pour leur faire leur bibliothèque numérique. Je reviendrai sur ce projet Gallica Marque Blanche. Et d'autre part, des premiers tests pour permettre à des partenaires d'intégrer des fichiers à l'unité via l'espace coopération. Donc voilà, vous avez une capture ici d'écran de cet espace coopération. Donc les partenaires ont un compte, ils peuvent se connecter à une rubrique qui s'appellera intégration des fichiers numériques. Ils déposent les images des documents numérisés sur un serveur FTP. Ils ont accès à ce serveur FTP via l'extranet et ils peuvent rattacher les images du document à une notice du catalogue général de la BNF. Donc ça suppose que le document soit déjà décrit dans le catalogue général de la BNF. Donc on espère ouvrir à l'automne. Il y a eu un petit peu de retard, on espérait l'ouvrir au printemps, mais c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on avait imaginé. Donc j'espère qu'en automne, on pourra commencer les premiers tests avec des partenaires qui ont déjà manifesté leur intérêt pour cette mise en ligne de leur collection numérique dans Gallica. Alors cette première phase de test se déroulera de la manière, pourra être possible selon les conditions suivantes. Donc, pour l'instant, on n'acceptera que des images numérisées au formatif. Pour l'instant, on pourra intégrer uniquement des monographies, des lots d'images, des cartes ou des plans. Les documents doivent être décrits dans l'un ou l'autre des catalogues de la BNF, soit BNF catalogue général pour les notices pour nous, c'est en Intermarque, mais on va pouvoir convertir les notices Unimarque en Intermarque pour pouvoir les intégrer, soit en EAD dans le catalogue BNF Archives et Manuscrits. Donc ça supposera un chargement des notices à ces formats, à instruire au cas par cas. On sait que les documents ne sont pas forcément décrits de la même manière dans toutes les bibliothèques. Donc là, c'est aussi pour ça que c'est un projet un peu compliqué. Pour l'instant, on ne pourra pas accepter de documents avec du mode texte. Ce sera uniquement les images qui pourront être intégrées. Et au fur et à mesure, on fera des évolutions à ce service. Et notre objectif, c'est d'ici, j'espère, quelques mois ou quelques années, pouvoir intégrer des images au format JPEG. Pourquoi pas des fichiers PDF, mais là, ça reste à instruire aussi. Et puis élargir à d'autres types de documents, pouvoir par exemple intégrer dans Gallica de la presse numérisée dans les bibliothèques, ça ce serait vraiment bien pour tout le monde. Et puis on essaiera aussi de pouvoir de travailler à l'intégration des fichiers OCR pour pouvoir avoir le même service pour ces documents intégrés que pour les documents numérisés par la BNF et pouvoir notamment faire de la recherche plein texte dans les documents. Donc pour les premiers fichiers qui ont réussi à intégrer les chaînes de la BNF et à apparaître en ligne dans Gallica. Là, vous avez une capture d'écran du manuscrit des Confessions de Rousseau numérisé par l'Assemblée nationale et dont on a récupéré les fichiers. Et dans ce cas-là aussi, un peu comme si on avait nous-mêmes numérisé les fichiers à la BNF, vous avez la mention de source en bas de l'image. Donc chaque image d'un fichier provenant d'un partenaire dans Gallica a en bas cette petite mention qui dit source-gallica.bnf.fr avec la mention de la bibliothèque qui nous a permis de numériser de récupérer ce fichier et de l'afficher dans Gallica. Et cette source, vous pouvez la retrouver sur le visualiseur de Gallica, mais aussi vous allez le retrouver sur le lecteur exportable. Je reviendrai tout à l'heure sur ce que c'est que ce lecteur exportable qui permet d'exporter les documents de Gallica sur d'autres sites à l'extérieur et aussi sur les fichiers PDF que vous allez télécharger à partir de Gallica. Et enfin, le troisième mode de signalement de documents numérisés par des partenaires dans Gallica, c'est ce qu'on appelle le moissonnage OIPMH. Donc là, on utilise un protocole OIPMH, un protocole informatique qui nous permet de récupérer là, uniquement les métadonnées des fichiers numérisés et en ligne sur d'autres bibliothèques numériques. On récupère ces métadonnées, on les indexe et on peut les trouver dans Gallica, dans sa recherche, dans sa liste de résultats. Mais là, dans ce cas-là, on ne récupère pas du tout le fichier, on récupère que les métadonnées et on renvoie le visiteur vers le site de la bibliothèque numérique du partenaire pour qu'il puisse consulter le document, le télécharger, enfin pouvoir y avoir accès dans son intégralité. Donc ça, c'est un protocole qui s'est beaucoup généralisé. Aujourd'hui, tous les établissements qui ont une bibliothèque numérique peuvent être compatibles avec ce protocole. La plupart des prestataires qui offrent des solutions de bibliothèque numérique propose une brique logicielle avec la compatibilité OIPMH. Et aujourd'hui, on a 54 bibliothèques qui ont référencé leur bibliothèque numérique dans Gallica. Donc ça donne aujourd'hui 150 000 documents référencés, alors qu'on en était seulement à 8100 en janvier 2010. Donc ce mode de signalement des collections a connu une très très forte croissance dans ces trois dernières années. Et donc on va vous parler aujourd'hui d'un exemple, donc la médiathèque de Moulins dont les collections sont référencées dans Gallica.
Donc c'est Françoise Muller qui va prendre la parole pour vous présenter non seulement l'interopérabilité Gallica Bibliothèque numérique de Moulins, mais son projet numérique qui est un projet global, raisonné, et ça nous a paru plus intéressant d'élargir le point de vue que de rester sur un dialogue technique entre nos deux bibliothèques numériques.
Merci Aline. Alors d'abord merci à la Bibliothèque nationale de France de m'avoir invité à parler effectivement de nos réalisations et de nos projets à Moulins Communauté. La demande porte effectivement sur le projet numérique de Moulins Communauté. J'essaierai néanmoins, vu l'étendue potentielle du sujet, de rester dans la sphère patrimoniale. Mais bon, vous aurez l'occasion de voir que cela s'inscrit de toute façon dans un projet global concernant l'établissement. Alors, je suis particulièrement contente d'intervenir aujourd'hui au congrès de l'ABF. Il se trouve que j'ai été présidente de l'ABF Auvergne pendant 5 ans, donc c'est un congrès auquel je suis particulièrement attachée. Je sais aussi d'expérience que l'intérêt de ce congrès est de faire se rencontrer des bibliothécaires de tous horizons, y compris des collègues qui peuvent se trouver dans cette salle et n'avoir aucune connaissance du sujet présenté aujourd'hui. Donc je vais essayer aussi de le faire de façon simple et accessible, pour que ça fasse sens pour tout le monde. Je considère qu'on n'est pas forcément entre spécialistes non plus de la numérisation, du patrimoine, etc. Alors, le sous-titre « Sortir d'un trou noir » a peut-être pu vous interpeller. Il se trouve effectivement que la médiathèque de Moulins Communauté était de fait dans un trou noir il y a quelques années, à la fois au sens propre du terme, dans la mesure où le bâtiment était vraiment très dégradé. Je vois Jean-Pierre Sacoun qui acquiesce, il a eu l'occasion effectivement de le voir. C'était un bâtiment très sombre, en mauvais état. En termes de projet, nous étions également dans un trou noir, en termes de moyens également. Et il est vrai que le projet numérique a été aussi un des moyens de sortir de ce trou noir pour rejoindre non seulement la galaxie Gallica, mais la galaxie de l'ensemble des bibliothèques qui essayent de proposer quelque chose pour leur public. Alors voilà, j'ai résumé ça de cette façon, de l'AS400 à l'interopérabilité, puisqu'effectivement, notre système informatique jusqu'en 2010, c'était l'AS400, à savoir un système qui nous permettait uniquement de faire du prêt. Donc il ne s'agissait pas du tout de catalogue, nous n'avions pas de SIGB, enfin voilà, en termes de moyens techniques, c'était extrêmement limité. Et pour nous, ça s'est inscrit dans un chantier global de rénovation, donc qui concerne à la fois le bâtiment, donc un projet architectural, un projet de service, des traitements de tout. Donc vous voyez un projet de 7 millions d'euros avec quelques clés de répartition des différents aspects du projet. Si vous accumulez les pourcentages, vous n'arriverez pas à 100%. Je n'ai pas tout détaillé, mais c'est simplement pour donner quelques orientations dans le projet où l'on voit que ce que je vais appeler le projet numérique représente 13% de l'ensemble du budget. Donc c'est vraiment un aspect important. Donc j'ai inclus dans ce projet numérique à la fois tous les aspects d'informatisation à proprement parler, SIGB, portail web, RFID, bibliothèque numérique, matériel fixe et nomade pour l'ouverture de la médiathèque, et également tout le traitement des collections patrimoniales, puisque notre médiathèque comporte en fait 2/3 de collections patrimoniales, donc environ 100 000 documents patrimoniaux, et c'est quelque chose de considérable qui n'était absolument pas signalé, traité, catalogué. Donc là aussi, c'était un peu le trou noir pour ces collections. Peut-être un petit rappel juste concernant Moulins Communauté. Donc la ville de Moulins est la préfecture de l'Allier, du département de l'Allier. C'est une ville de 20 000 habitants. La médiathèque a été transférée à l'agglomération en janvier 2010. C'est une agglomération de 60 000 habitants. Et au mois de juillet, nous serons 20 personnes en tout et pour tout pour gérer cette bibliothèque. Parmi ces 20 personnes, donc mon poste, qui est un poste de conservateur d'État mis à disposition par le ministère de la Culture, 3 emplois d'avenir, un poste de CAE, un agent d'entretien et 2 personnels de secrétariat. Donc en réalité, ça fait 12 agents bibliothécaires, disons au sens large, pour assumer l'ensemble des missions pour un bâtiment de 3 000 m². Et nous venons de valider les horaires d'ouverture qui seront de 32 heures par semaine à partir du mois d'octobre. Donc voilà, un projet numérique global pour une diffusion et médiation numérique du patrimoine. Alors, comment y arriver ? Eh bien, pour nous, il y a eu un fil directeur, je dirais, qui était l'objectif « plus jamais seul ». Alors, plus jamais seul à la fois, donc, en termes de services à la population et de moyens mis en regard. Donc, un transfert à l'agglomération en janvier 2010 pour être vraiment à l'échelle de la population que nous desservons. Le soutien absolument nécessaire d'une assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'informatisation. Donc là, pour nous, ça a été le cabinet Savoir-Sphère qui nous suit depuis 2010 et qui continue à nous accompagner aujourd'hui. Donc là, bon, pour les collègues qui éventuellement seraient dans une phase de projet, pour nous, ça a été absolument indispensable. Vous pouvez l'imaginer avec l'échelle de personnel, d'équipe que nous avons. Rappeler aussi que Moulins Communauté, c'est une agglomération qui n'a pas de compétences culture, pas de compétences lecture publique, pas de direction d'affaires culturelles, pas de DGA culture. Donc même en termes d'encadrement, évidemment, on se sent parfois un petit peu seul. Le recrutement de compétences nouvelles qui était forcément quelque chose d'indispensable, puisque n'ayant auparavant pas de système informatique, pas de SIGB, etc., il n'y avait bien entendu aucune compétence en la matière dans l'équipe de la médiathèque. Donc sur les 12 agents dont je parlais tout à l'heure, aujourd'hui nous avons un administrateur de SIGB et un médiateur numérique. Donc là aussi, en termes de projet, c'est quelque chose d'absolument indispensable. Une informatisation en réseau, alors en réseau au niveau vraiment local, puisqu'il s'agit d'une informatisation pour l'agglomération, mais aussi la réflexion, c'est un réseau au niveau national, alors bien sûr un réseau quand on parle des partenaires comme la BNF, mais je dirais plus largement au niveau de l'équipe, participer à des groupes de travail, des clubs utilisateurs, etc., pour ne plus jamais travailler seul, s'appuyer aussi sur les compétences des collègues, apporter sa propre expérience et éviter de refaire dans son coin ce qui a déjà été fait ailleurs. Construire pour un projet numérique, parce qu'il s'agit d'un projet architectural donc qui s'est construit en même temps que le projet d'informatisation, et avec l'objectif donc pour nous d'ouvrir à l'automne 2013 un bâtiment qui soit à la hauteur des services numériques que nous souhaitons proposer. Et quoi qu'on puisse imaginer, l'expérience que j'ai aujourd'hui, c'est que avoir un dialogue avec un architecte et avec une maîtrise d'ouvrage sur la question de l'informatisation d'un bâtiment et des services numériques qu'on veut proposer dans un bâtiment est loin d'être simple. Parce que lorsque vous commencez à venir avec la liste des prises de courant, tout simplement, qu'il vous faut dans une médiathèque, c'est un dialogue qui peut être très long. Et évidemment, il y a aussi toutes les questions de serveurs, de réseaux, etc. Mais voilà, c'est aussi un aspect du chantier qui est très terre-à-terre, mais qui est absolument indispensable lorsqu'on souhaite ensuite accueillir un public et lui proposer des services numériques. Et enfin, bien sûr, le signalement des collections patrimoniales, qui était pour nous vraiment quelque chose d'absolument indispensable et nécessaire, et une numérisation d'une partie des collections patrimoniales, une petite partie, mais une partie choisie, pour conserver pour les parties les plus précieuses, mais aussi pour diffuser et partager. Alors, un élément important pour nous, ça a vraiment été cet aspect de changement dans la perspective, dans les habitudes de travail, dans la vision du travail collectif, et donc un changement dans une logique d'échange. Alors là, voilà, j'ai placé en regard la médiathèque de Moulins Communauté et la Bibliothèque nationale de France. Bon, ce sont des choses qui sont certainement connues pour un certain nombre d'entre vous dans la salle, mais peut-être pas pour tous. Ce sont les différents modes d'échange dont une bibliothèque à l'échelle de celle de Moulins Communauté peut bénéficier. Alors l'OAI, Guillaume Godet vient d'en parler, le protocole qui permet avec Gallica donc, d'échanger des fichiers, et donc à la fois de la part de la bibliothèque partenaire d'enrichir Gallica, mais également nous de tirer profit de toute l'infrastructure et de tout le signalement possible par le biais de Gallica. En ce qui nous concerne, nos collections ont été signalées dans Gallica, sont visibles dans Gallica depuis quelques semaines. Nous avons déjà eu des coups de téléphone, des mails de personnes ayant trouvé nos collections dans Gallica et qui souhaitaient en savoir plus, donc des chercheurs venant d'un peu partout. Dans les projets, donc, je ne sais pas si vous allez évoquer les 7 tout à l'heure, Guillaume, ou pas particulièrement. Bon, c'est une déclinaison, disons, de Gallica qui va nous permettre d'enrichir, nous, notre catalogue du fonds local, donc avec des numérisations qui n'ont pas été faites à notre niveau. Un signalement au niveau du catalogue général des manuscrits qui, lui, renvoie vers notre bibliothèque numérique, avec en même temps un apport fait par notre établissement, puisque la mise à jour et l'enrichissement en EAD ont été faits par la médiathèque de Moulins Communauté. Dans l'autre sens, l'enrichissement du portail du CCFR par nos rétroconversions, et bien sûr, en échange, un meilleur signalement de nos collections et de nos rétroconversions par le biais du CCFR. Et enfin, nous utilisons très régulièrement le catalogue général, à la fois pour les acquisitions courantes, mais également pour l'inventaire qui est actuellement en cours d'un fonds patrimonial pour lequel nous bénéficions d'une dérivation importante de notices de la BNF. Alors, j'ai voulu là donner vraiment un exemple très concret, parce que je pense que c'est une question qu'on peut se poser quand on est dans une perspective de projet lié à Gallica. C'est concrètement, quand on est bibliothécaire, comment ça marche. Donc, à notre niveau, lorsque nous avons fait une consultation pour choisir un outil de portail, donc une création de portail web et une bibliothèque numérique, nous avons demandé dans le cahier des charges qu'il y ait une bibliothèque numérique intégrée au portail, ce qui nous permettait vraiment de ne pas avoir des outils séparés. Et donc, de ce fait, nous avons donc choisi le portail AFI. Et là, je vous ai fait une capture d'écran de l'aspect administrateur, qui montre que c'est quelque chose finalement de très simple. Enfin, quoi qu'on puisse en penser, vu de l'extérieur, ça peut paraître complexe. En réalité, c'est relativement simple. Je dirais quand on a le bon outil qui le permet. Alors, je sais que ce n'est pas forcément accessible à tout le monde, mais il faut savoir que ces outils-là, effectivement, maintenant existent et permettent quand même une gestion relativement simple. Où vous voyez que dans ce module, donc il y a un module bibliothèque numérique dans lequel en fait on charge tout simplement des fichiers. Et à ce moment-là, en ce qui nous concerne, il y a eu en amont une numérisation donc effectuée avec un prestataire. Nous avons chargé les fichiers à partir de notre serveur. Nous chargeons les fichiers donc dans notre outil de portail et de bibliothèque numérique. Et vous voyez que ces images sont en fait sur le même plan que des livres numériques tels qu'on peut aujourd'hui en proposer en bibliothèque, que des photos, puisque nous, par exemple, sur le portail web, nous proposons des photos du chantier de la médiathèque actuellement en cours. Donc voilà, c'est un outil relativement simple avec une hiérarchie que nous introduisons nous-mêmes. Donc en ce qui nous concerne, il y a eu en fait la numérisation de l'ensemble de nos manuscrits en 2011 et une sélection de documents imprimés du fonds Bourbonnais. Il y en aura d'autres par la suite, mais voilà, ça donne un peu une idée. Et par ailleurs, l'aspect entrepôt OAI, qui est donc l'élément indispensable pour permettre d'enrichir Gallica et d'être moissonné par Gallica, là aussi, cet outil le permet de façon relativement simple. Alors, en ce qui nous concerne, il y a eu de nombreux échanges de notre prestataire avec Guillaume Godet pour vraiment la mise en œuvre de l'interopérabilité, mais je pense que c'était lié au fait que nous étions, nous, le premier client d'AFI, en fait, à mettre en place cette interopérabilité dans cet outil. Maintenant que les bonnes habitudes ont été prises, je pense que ce sera plus facile pour les clients suivants. Mais quoi qu'il en soit, cela reste accessible. Ce n'est pas d'une très grande complexité. Et à partir de là, en fait, on arrive tout simplement, une fois que tout ceci est mis en place, on arrive sur effectivement la page Gallica concernant Moulins Communauté. bon, avec différents modes de recherche, de tri, d'affichage. Donc, bon, c'est la page que Guillaume montrait tout à l'heure. Donc, pour vous donner un exemple, celui par exemple du manuscrit 14 qui est un sacramentaire du XIIe siècle, il suffit tout simplement de cliquer sur le lien accéder aux documents sur le portail du Moulin Communauté. Et en fait, on arrive ici directement sur l'opaque intégré à notre portail, du fait de cette bibliothèque numérique complètement intégrée. Donc, à notre niveau, en fait, le livre qui a été numérisé apparaît comme n'importe quel livre numérique. Donc, même un utilisateur, par exemple, qui, dans notre catalogue en ligne, fait une recherche à Bible de Souvigny, pour prendre l'exemple type des collections patrimoniales à Moulins, va avoir dans ses résultats d'affichage aussi bien des livres sur la Bible de Souvigny que la Bible de Souvigny numérisée. Et voilà, ça va se présenter comme ça. Donc, dès la première page de la notice, un outil de feuilletage qui permet ici de feuilleter. Et vous voyez, bon, j'ai mis une flèche avec un clic qui permet d'agrandir la page et d'arriver dans un outil de feuilletage un peu plus complet, de navigation dans les folios, qui permet différentes fonctions. Alors, pour sortir peut-être un tout petit peu de Gallica, cette partie-là est accessible également depuis le catalogue général des manuscrits en ligne, puisque un autre chantier, enfin, qui était un peu moins important, mais que nous avons conduit également, concernait le catalogue général des manuscrits. Alors, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas connu de tout le monde dans la salle, donc je fais un rapide rappel. Le catalogue général des manuscrits donc, a été imprimé à la fin du XIXe siècle. Il recensait les collections de manuscrits conservées dans les bibliothèques publiques. Donc la Bibliothèque nationale de France a mené la rétroconversion de ce catalogue il y a quelques années, pas très longtemps, hein, c'est très récent. Et comme ce catalogue a été rétroconverti en EAD, la BNF propose des formations à l'EAD, au catalogage en EAD, aux bibliothèques concernées, et donc à charge pour ces bibliothèques ensuite d'assurer elles-mêmes la mise à jour et l'enrichissement de ce catalogue. Parce que vous pouvez imaginer qu'un catalogue qui a été imprimé à la fin du XIXe siècle, forcément il y a eu des changements dans les collections, des disparitions, des acquisitions, on a des choses complémentaires à ajouter dans les notices, une autre façon de décrire aussi. Donc, en ce qui nous concernait, comme il s'est trouvé que nous venions de numériser l'ensemble de nos manuscrits, la formation a été suivie et effectivement, nous avons conduit cette mise à jour avec un enrichissement qui non seulement concernait le contenu, disons, un peu plus détaillé des notices, mais également un lien vers les manuscrits. Donc, en fait, quand on se trouve dans le portail du CCFR, à ce niveau-là, si on clique, on arrive là aussi sur la notice que je vous montrais tout à l'heure, qui est la même, et donc qui est également visible dans Gallica. Donc ça fait en fait deux portes d'accès, je dirais grâce à la BNF, deux portes d'accès vers nos collections dans notre catalogue. Donc on arrive voilà, exactement sur le même fonction. Alors, à suivre et à poursuivre en ce qui nous concerne, effectivement, la création d'un set bourbonnais, donc là, l'intérêt, c'est que, bon, on sait évidemment que beaucoup de collections ont été numérisées par la BNF. Dans certains cas, ça vient compléter très utilement nos collections papier, en fait, parce que ça permet d'enrichir les notices de notre catalogue du fichier numérique. Parce que nous n'allons pas, à notre niveau, mener une numérisation total, d'autant plus avec les fichiers qui ont déjà été réalisés par la BNF. Donc ce set bourbonnais va permettre d'enrichir en fait notre catalogue du fonds local grâce à Gallica. Par ailleurs, nous avons également une numérisation en cours d'une sélection de jeunesse, de livres de jeunesse du XIXe siècle, donc qui va s'inscrire dans le programme de la BNF de littérature patrimoniale pour la jeunesse, donc un partenariat avec le Centre national de littérature de jeunesse. Et bien entendu, pour notre établissement, le rendez-vous de l'année, c'est le 19 octobre 2013, puisque nous rouvrons notre médiathèque après 33 mois de fermeture, parce que le trou noir était tellement profond que les élus ont pris la décision de fermer complètement, avec notre demande de fermer totalement en fait, la bibliothèque au public pendant toute cette période. Donc, nous avons intégralement déménagé dans des locaux provisoires, hein, personnel et collections. Pendant ce temps, nous avons tout fait, tout le traitement des collections patrimoniales, l'informatisation, la formation des personnels, la numérisation, le désherbage, la remise à niveau des collections de prêts, enfin voilà, tout. Donc nous rouvrons une médiathèque après presque 3 ans de fermeture. Vous imaginez aussi que le service à proposer au public est extrêmement différent. Vous avez tous suivi cette évolution. Donc, bien entendu, l'enjeu du projet numérique, voilà, c'est là qu'il va vraiment se traduire concrètement pour nous. Donc, on verra si on survit dans quelques mois. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Françoise. Juste pour préciser sur la question de l'apport de Gallica sur la fréquentation des bibliothèques numériques référencées. Aujourd'hui, dans Gallica, vous avez à peu près entre 30 et 40 000 visiteurs par jour. Donc c'est assez considérable par rapport aux autres bibliothèques numériques souvent qu'on référence. Et donc ça représente un pourcentage très très. Enfin, le renvoi de Gallica vers les sites extérieurs, ça leur envoie beaucoup beaucoup de trafic et ça. Souvent, ça représente entre 30 et 60% de leur trafic. Alors, on a eu plusieurs témoignages de bibliothèques qui disaient voilà, on a vu nos visites doubler depuis le référencement dans Gallica. Alors, c'est pas ça. Au début, donc je reviens à ma présentation. Donc là, on a fait le tour de la première partie qui était les sources d'alimentation, si je puis dire, de Gallica.
Voilà.
Voilà, donc maintenant on va passer à la deuxième partie, la galaxie Gallica. Jusqu'en 2010-2011, Gallica c'était simple, c'était un seul site internet, une bibliothèque numérique qui référençait en grande majorité les collections numérisées patrimoniales de la BNF. Aujourd'hui, Gallica s'est lancé dans une stratégie de conquête. De l'internaute. On est vraiment conscient que c'est une richesse phénoménale, mais que c'est pas assez connu. Et donc, la stratégie, c'est être là où se trouve l'internaute, sur le web, sur les réseaux sociaux, sur les mobiles, etc. Donc là, vous avez un schéma un peu artificiel qui montre les différents satellites de Gallica. Ça va me permettre de vous présenter ces différents sites ou ces différents services qui s'agrègent au fur et à mesure du temps pour permettre aux internautes de nous trouver et de découvrir les collections. Dans le schéma, vous avez en bas à gauche Gallica les services numériques aux bibliothèques. Alors, un des éléments de la stratégie, c'est de rendre. Là, vous avez eu un exemple, Gallica renvoie du trafic vers la médiathèque de Boulins Communauté, enfin, leur site internet. Dans le sens inverse, les sites, les portails des bibliothèques, les bibliothèques numériques des bibliothèques françaises peuvent aussi, évidemment, apporter du trafic à Gallica. Et donc, c'est à nous de proposer des services qui leur permettent, de manière simple, d'intégrer des liens de leur site vers Gallica. Alors, un des moyens de référencer les collections de Gallica sur les sites extérieurs, c'est le protocole OIPMH dont on a déjà parlé dans le sens Gallica extérieur. Ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Et là, vous avez plusieurs exemples qui montrent la manière dont des bibliothèques numériques se sont emparées de ces outils pour référencer des documents Gallica. Alors, l'exemple de Medica, bibliothèque numérique de la BIU Santé à Paris. Donc là, leur choix, c'était de moissonner, on parle de moissonner, un set OAI, donc tout l'ensemble documentaire qui correspond aux collections de médecine dans Gallica. Donc là, à chaque fois qu'il y a un nouveau document qui est mis en ligne dans Gallica et qui a pour thème, on met des thèmes du web, le thème médecine, automatiquement, chaque semaine, ces nouveautés apparaissent sur le site Medica. Donc là, ça permet une alimentation automatique de leur bibliothèque numérique avec tous les nouveaux titres en médecine de Gallica. Là, ça enrichit considérablement leur propre bibliothèque numérique. Là, vous avez un exemple équivalent avec le portail des arts de la marionnette. Donc là, c'est un peu différent. Autant la BIU Santé, c'est une alimentation automatique. Là, sur un thème qui est bien défini, Là, c'était un thème un peu particulier qui est la marionnette. Les équipes de la BNF ne taguent pas à chaque fois avec un tag marionnette quand il y a une nouveauté dans quel cas. Donc là, c'est un ensemble documentaire qui a été fait en collaboration avec notre partenaire. Donc on a tagué, on a mis dans un set marionnette tous les documents sur la marionnette dans Galka. Et le portail des arts de la marionnette moissonne ce set, cet ensemble, et il référence tous les documents sur la marionnette sur leur portail. Donc là aussi, ça apporte beaucoup de richesse à leur portail. On a fait la même chose avec la ville de Roubaix. On a tagué tous les documents autour de Roubaix dans Galka. Donc là, il y a un set qui est moissonné. Quand vous allez sur la bibliothèque numérique de Roubaix, vous avez un bandeau Roubaix dans Galka qui mène à cette liste de documents sur la ville de Roubaix dans Galka. Alors là, c'était un système un peu automatique de moissonnage OAI. Vous pouvez aussi faire la même chose de manière plus manuelle en référençant simplement dans votre portail, dans votre bibliothèque numérique, les documents qui vous intéressent. Là, vous avez l'exemple. Donc sans utiliser le protocole OAI, juste en intégrant dans votre catalogue des notices enrichies avec ce que vous voulez. Donc là, vous avez l'exemple des archives départementales de la Vendée qui ont décidé d'intégrer dans leur catalogue des documents qui les intéressaient sur la Vendée dans Galka. Et là, vous voyez un petit texte de présentation du contenu. Donc là, la simple notice bibliographique de Galka ne leur suffisait pas. Et ils ont enrichi cette notice avec leur propre description, donc qui s'adapte à leur public. Alors, un autre exemple, c'est la bibliothèque des Champs Libres à Rennes. Donc là, à l'intérieur de leur catalogue, ils ont récupéré, lorsque le document était numérisé et accessible dans Galka, ils ont récupéré un petit bout de code HTML qui leur permet de mettre le lecteur exportable dans leur catalogue. Donc là, si vous tapez dans le moteur de recherche de leur catalogue Janin, eh bien vous tombez sur un ensemble de documents. Et donc celui-ci était en ligne dans Galka. Donc d'un côté, évidemment, il signale la présence physique du livre dans les rayons. Et à côté de ça, vous avez ce lecteur exportable qui permet de consulter directement le document sans sortir de leur catalogue. Là, vous ne basculez pas dans Galka. Vous avez juste à tourner les pages pour pouvoir lire le livre. Ça, c'est aussi une manière d'enrichir le catalogue qui est très simple techniquement, qui est, voilà, je pense que toutes les bibliothèques de France, je m'engage un peu, mais pourraient le faire. Alors, si ce n'est pas le lecteur exportable, c'est simplement un lien. Vous utilisez donc on utilise des liens ARC, des liens pérennes. Donc vous récupérez en bas du document dans Galka le lien et vous pouvez l'intégrer dans la zone 856 du catalogue pour envoyer le visiteur vers la consultation du document dans Galka. Alors on a mis en place des outils de partage.
Excusez-moi Guillaume, c'est une sélection d'exemples parce que dans la salle nous avons des partenaires, la bibliothèque de Limoges avec laquelle nous travaillons sur un set Galka Limousin, le portail Liane de Franche-Comté où il y a aussi le référencement de la Franche-Comté dans Galka sur le portail régional. J'en oublie peut-être, mais enfin les exemples sont multiples.
Donc si vous avez des projets, contactez-nous et on pourra vous aider à les réaliser. Alors on a mis en place des outils de partage alors qui servent évidemment aux professionnels, aux bibliothécaires pour intégrer des liens plus facilement sur leur site, mais qui servent aussi à des internautes, des blogueurs par exemple, qui peuvent intégrer des documents directement sur leur blog. Alors on a mis en place trois outils différents, la vignette exportable, le lecteur exportable et une sélection d'images. Alors le premier c'est la vignette exportable. Donc, quand vous consultez un document dans Galka, vous avez en bas de l'image un bloc qui s'appelle « Partager ». Donc dans ce bloc, vous avez donc à gauche le lien vers le lien ARC dont je parlais, le permalien sur le document, qui est une adresse URL fixe et unique, le permalien sur la page, et des outils de partage au milieu. Donc le lecteur exportable et la vignette exportable. Alors la vignette exportable, ça vous permet de récupérer de manière automatique la vignette miniature avec le titre du document et le lien pour le consulter dans Galka. Donc vous avez juste à copier ce petit bout de code dans votre catalogue, sur votre blog, sur votre page Facebook, où vous voulez, sur votre site internet pour pouvoir intégrer une petite vignette cliquable. Alors, le lecteur exportable, c'est un peu plus évolué. Donc là, ça vous permet de feuilleter le document. Donc, si vous pouvez choisir le mode de défilement, défilement horizontal, défilement vertical, la taille du lecteur exportable. Vous pouvez changer la couleur pour l'adapter au graphisme de votre site. Pareil, vous avez juste un petit bout de code à copier sur votre site pour pouvoir intégrer le document. Ça fonctionne exactement comme les vidéos YouTube. Si vous voulez intégrer une vidéo sur votre site, vous copiez le petit bout de code et ça se fait de manière très simple. Ensuite, la sélection d'images exportables. Donc là, un zoom assez puissant a été mis en place il y a 2 ans sur Gallica. Quand vous utilisez ce zoom, vous avez un petit bouton exporter la sélection. Donc là, vous pouvez choisir un petit bout d'une image, vous la sélectionnez, et là, vous pouvez soit exporter ce détail de l'image si vous voulez enregistrer l'image sur votre disque dur, soit vous pouvez juste copier aussi un petit bout de code si vous voulez intégrer cette image sur votre site. Donc le zoom de Gallica est très puissant. Là, vous avez un exemple d'une carte, je ne sais pas si vous voyez bien, mais une carte de Lyon. Vous voyez, en utilisant le zoom, on peut vraiment agrandir de manière considérable un tout petit détail de la carte. Et là, vous avez des outils de sélection qui vous permettent d'exporter l'image pour l'intégrer sur votre site, sur votre blog ou dans votre catalogue. Alors, deuxième satellite de Gallica, c'est l'offre Gallica Marque Blanche. Donc là, vous avez vu la manière dont on personnalise les listes de résultats pour les partenaires, avec le logo, le bandeau, et puis un logo dans la liste de résultats. Donc là, pour aller un peu plus loin, pour aller même beaucoup plus loin dans cette démarche, on réfléchit à une offre de Gallica Marque Blanche, donc une offre de bibliothèque numérique entièrement personnalisée aux couleurs d'un partenaire. Donc un mini Gallica, mais entièrement personnalisé pour tel ou tel partenaire. Donc ce serait une bibliothèque numérique hébergée et développée par la BNF, entièrement personnalisée, mis en œuvre donc, à titre temporaire donc, pour une période déterminée. Il faudra évidemment signer une convention ou un contrat. La bibliothèque numérique sera paramétrable et elle exploitera toutes les fonctionnalités de Gallica. Donc, tous les outils que je vous ai montrés, le zoom, etc., tout ça, ça bénéficiera aussi aux partenaires qui auront cette solution Gallica Marque Blanche. Et on pourra consulter sur ce site internet en marque blanche un ensemble documentaire, un corpus sélectionné par le partenaire pour leur intérêt, soit thématique, soit géographique. Alors, donc pour tester cette nouvelle offre, on va lancer le 15 septembre 2013 le premier prototype de cette offre Gallica Marque Blanche. Donc le partenaire qui a été choisi pour ce prototype, c'est la Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbourg. Donc le 15 septembre, on lancera le site Numistral, numistral.fr, qui sera la bibliothèque numérique de la BNUS. Et donc dans ce site Numistral, vous pourrez trouver un ensemble de documents sélectionnés dans Gallica par la BNUS pour leur intérêt géographique. Vous avez des documents sur l'Alsace, sur la ville de Strasbourg, etc., sur les thèmes d'excellence de la BNUS. Vous aurez aussi tous les documents numérisés par la BNUS depuis plusieurs années qui seront intégrés dans Gallica et consultables sur ce site, cette déclinaison de Gallica pour la BNUS. Et puis vous aurez aussi des documents de partenaires numérisés par la BNF et qui intéresse la BNUS, et qu'elle pourra présenter sur son site, sur sa bibliothèque numérique Numistral. Donc voilà, les sites en marque blanche pourront donner accès à ces 3 types de documents. Donc notre plan d'action sur ce projet, on lance un premier prototype le 15 septembre, on va faire un bilan de cette première expérience, et après, on définira la manière dont on étend ce service à d'autres partenaires. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore défini la manière dont on pourra créer d'autres bibliothèques en marque blanche pour d'autres partenaires. Mais si ce service vous intéresse, évidemment, on peut se rencontrer pour en discuter. Troisième satellite de Gallica, c'est Gallica Mobile. Donc là, évidemment, était très important d'être présent sur les appareils mobiles, puisque de plus en plus de gens consultent les collections sur ces supports. Donc on a lancé successivement différentes applications. Alors une première application pour iPad, il y a maintenant un an et demi. On a lancé une nouvelle version de cette application pour le Salon du Livre en mars, donc qui est beaucoup plus performante. Donc les heureux possesseurs d'iPad peuvent avoir une très très bonne version de cette application gratuite que vous pouvez télécharger. On a lancé récemment une déclinaison pour l'iPhone. C'est un peu plus compliqué, on a pris un peu plus de temps. Mais l'application est très satisfaisante aujourd'hui. Et on travaille aussi, on a lancé une première version de l'application pour les tablettes et les téléphones Android, mais qui a encore quelques bugs, et qui sera, donc il y aura une nouvelle version qui sera aussi performante que la version pour iPad à partir du mois de septembre. Et en parallèle, pour les gens qui n'ont ni iPad, ni iPhone, ni téléphone Android, et qui utilisent un autre système d'exploitation, on va lancer une version de Gallica pour mobile, et qui permet d'avoir une navigation dans le site optimisée pour toutes les tailles d'écran. Aujourd'hui, la version actuelle du site, les boutons, par exemple, si vous voulez cliquer sur page suivante, on a souvent des trop gros doigts et on n'arrive pas à trouver le bouton, donc ce n'est pas optimisé pour les petits écrans. Donc tout ça, on va y remédier dans les prochaines semaines. Ensuite, Gallica sur les réseaux sociaux, donc dans l'optique d'être là où se trouve l'internaute. Vous avez plusieurs... pour Gallica mobile, il faut savoir que tous les documents numérisés à partir des collections des partenaires sont aussi accessibles sur ces applications Gallica. Donc c'est aussi c'est très intéressant pour les 100, voire plus partenaires qui participent avec nous à l'enrichissement de Gallica. Ils peuvent proposer à leurs propres usagers le téléchargement gratuit de cette application où on peut consulter leur collection de manière très agréable. Alors Gallica sur les réseaux sociaux, je vais aller rapidement. Vous avez le blog Gallica qui met en avant régulièrement des grands thèmes et qui met aussi en avant les nouvelles fonctionnalités, etc. Si vous souhaitez qu'on fasse un focus sur les collections de tel ou tel partenaire ou de tel thème, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez qu'on enrichisse ce blog ensemble. La newsletter Gallica est envoyée tous les mois ou tous les deux mois à aujourd'hui 45 000 personnes. Là, elle met en avant aussi les nouveautés, les nouveaux partenariats et les réutilisations que font les Gallica Notes, les utilisateurs de Gallica sur leur propre site. La page Facebook de Gallica, aujourd'hui, on arrive à, je crois, 30 000 amis. Donc vous avez des rendez-vous incontournables comme l'énigme du vendredi, tous les vendredis sur cette page Facebook. Là aussi, on met en avant tous les jours des documents, des ensembles de documents, souvent des belles images, puisque c'est plutôt ce que demande le public de Facebook. Régulièrement, on demande à des internautes de créer pour nous des albums d'images. Donc ça s'appelle l'invité de Gallica. Si vous souhaitez qu'on crée des albums à partir d'images de Gallica sur Facebook, n'hésitez pas à nous envoyer des idées d'albums. Ça permettra de mettre en avant les documents que vous souhaitez mettre en avant auprès du public de Gallica sur Facebook. Et puis évidemment, si vous-même vous avez des pages Facebook, surtout utilisez et réutilisez les documents de Gallica. C'est un très bon moyen d'enrichir la page et de se faire des nouveaux amis. De la même chose sur Twitter. Aujourd'hui, Gallica sur Twitter, c'est un compte très très... C'est un des comptes les plus importants pour les bibliothèques en France. Un axe important de cette médiation sur Twitter, c'est la mise en avant des réutilisations des contenus de Gallica sur les blogs, sur les sites. Et là aussi... si vous faites des réutilisations des contenus de Gallica sur votre portail, sur votre propre site, votre propre blog, votre page Facebook, nous, on peut mettre en avant ces réutilisations-là à partir du fil Twitter, et ça peut mettre en avant les différentes initiatives que vous pouvez faire pour mettre en avant les contenus de Gallica.
On a un dialogue permanent avec la BFM. Je vous laisse.
Voilà, toutes les. On échange beaucoup avec le compte de la BFM. Toutes les semaines, vous avez dans Gallica une nouvelle mise en ligne. Vous avez entre 5 000 et 6 000 nouveaux documents qui apparaissent dans Gallica. Donc là, on fait un travail de dépouillement pour voir les pépites, les trésors qu'on va pouvoir sortir de ces 5 000 à 6 000 documents. Et donc là, évidemment, on fait un appel sur Twitter. On dit attention, la chasse au trésor est ouverte. On met un lien vers la liste des nouveautés et les internautes consultent la liste des nouveautés et nous aident à repérer vraiment les documents rigolos, jolis, intéressants, passionnants qui ont été mis en ligne. Et donc là, l'exemple du compte de la BFM de Limoges, toutes les semaines, ils repèrent eux-mêmes les nouveaux documents sur Limoges ou la région d'Angelica. Ils le tweetent et nous on retweet. Voilà, donc ça permet de dialoguer, pour nous d'enrichir notre connaissance des nouveautés qui ont été mises en ligne et pour eux de mettre en avant des documents intéressants sur le plan patrimonial pour la région. Donc c'est un dialogue enrichissant pour tout le monde. Pour le compte Pinterest, on peut aussi faire la même chose. Je ne sais pas si vous connaissez, Pinterest, c'est un nouveau réseau social qui fonctionne sur le principe du tableau de Liège sur lequel vous allez épingler des images. Donc Gallica s'est lancé depuis un an sur ce nouveau réseau social. Donc vous avez des albums, alors voilà, avec des jolies cartes, des jolies marionnettes. Enfin, souvent c'est autour de la beauté iconographique, puisque c'est ce qui fonctionne le mieux sur ce type de réseau. Donc on a un tableau qui est les trouvailles de Gallica Notes. Donc on fait un travail de veille sur la réutilisation de Gallica sur le web. Lorsque un Gallica Note met en avant un document vraiment intéressant, on l'épingle sur ce tableau trouvailles de Gallica Notes sur Pinterest. Ce que je trouverais intéressant, c'est qu'on ait le même type de partenariat avec des bibliothèques. On pourrait faire un tableau trouvaille de bibliothèque où on mettrait en avant les documents, les réutiliser par des partenaires. Alors, dernière partie, donc Gallica demain.
On va être obligé de passer très vite pour Gallica demain. Hein, en 5 minutes.
Bon, alors, très rapidement, les futures fonctionnalités de Gallica. La première, Gallica sera agrégateur pour Europeana. Donc là, les bibliothèques qui sont moissonnées par Gallica pourront voir ces données réexposées sur un entrepôt AI agrégateur et ces documents-là seront référencés sur Europeana. Donc là, ça permet de simplifier le travail d'Europeana qui préfère limiter le nombre d'interlocuteurs. Ils ont des milliers de bibliothèques partout en Europe partenaires. Ils préfèrent avoir des agrégateurs nationaux. Donc il y aura deux agrégateurs principaux nationaux en France, le moteur collection et Gallica. Et donc les bibliothèques peuvent choisir, soit elles préfèrent faire référencer leur bibliothèque numérique via Gallica ou via le moteur collection. Donc ce service sera lancé, j'espère, à la rentrée en septembre. Deuxième grande nouveauté, on est en train de refondre le moteur de recherche de Gallica. Aujourd'hui, vous pouvez tester le futur moteur de recherche dans un site qui s'appelle Gallica Labs, dont vous trouvez le lien tout en bas de la page de Gallica. Donc c'est un moteur de recherche qui apportera beaucoup de nouvelles fonctionnalités dont on espère beaucoup pour améliorer la pertinence des résultats et permettre l'autosuggestion. Quand vous commencez à taper un mot, on vous donne des suggestions de résultats. Vous avez beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui seront mises en place grâce à ce moteur. Un autre chantier, c'est la refonte du visualiseur de Gallica. Aujourd'hui, vous avez 3 visualiseurs différents. Un visualiseur normal, un visualiseur en flash qui vous permet de feuilleter les livres avec un effet de page et le zoom dont je vous ai déjà parlé. Souvent, les internautes ne savent pas s'il vaut mieux utiliser l'un ou l'autre de ces visualiseurs. Donc, on va essayer de les unifier de manière à simplifier la navigation dans Gallica. Beaucoup de projets autour du crowdsourcing. Donc il manque un D. De l'utilisation des internautes pour améliorer le service de Gallica. On mène un projet de recherche qui s'appelle le projet OSALID autour de la correction collaborative de l'OCR. Donc, l'OCR, c'est la reconnaissance optique des caractères. L'idée, c'est de créer un réseau social à partir duquel les internautes pourront participer à l'amélioration de l'OCR, donc du mode texte dans Gallica. Donc, il y aura une rencontre le 23 juin à la BNF pour présenter ce projet de recherche. Vous pouvez voir des informations sur ce rendez-vous sur le blog de Gallica. On donne les liens pour vous inscrire à ce rendez-vous. Les livres au format EPUB. Donc là, la BNF numérise des documents et les convertit dans des formats accessibles sur les supports mobiles, les tablettes, les téléphones portables. Aujourd'hui, vous avez 159 fichiers EPUB qui sont téléchargeables gratuitement dans Gallica. Ce nombre va considérablement augmenter dans les prochains mois, puisque plusieurs milliers de fichiers ont été produits et seront livrés, seront accessibles bientôt. Dernier grand chantier important à la BNF, c'est tout le chantier autour de l'éditorial, la médiation numérique à l'intérieur de Gallica. On est très avancé sur la médiation à l'extérieur, sur les réseaux sociaux. Il y a une vraie demande des Gallicanautes d'avoir des accès raisonnés aux grands ensembles, aux grands corpus documentaires dans Gallica. Donc on avait fait une enquête d'usage qui avait montré ce besoin. Donc on travaille beaucoup sur cette médiation numérique. Alors, une première phase pour cette médiation numérique, c'est la mise en valeur des partenaires. Donc vous aurez bientôt, pour chacun des partenaires, une page de présentation avec une description de la bibliothèque, une description des fonds numérisés qui permettra de mettre en avant les grands programmes de numérisation. Et puis, l'accès aux grands corpus, aux grands ensembles de Gallica. Donc ça, c'est un chantier qui a démarré. Vous pouvez déjà voir sur les pages de présentation de la presse dans Gallica un accès aux principaux quotidiens nationaux. Donc vous cliquez sur le lien, là vous voyez un accès direct au Monde, au Figaro, au Temps, etc., à tous les grands quotidiens numérisés. Vous avez la même chose pour tous les titres de presse spécialisés. Un accès aux titres de presse géographique par région, un accès aux revues savantes par zone géographique, etc., etc. Donc vous voyez le principe, c'est donner accès, un accès raisonné aux grandes collections, aux grands ensembles documentaires, un accès simple, puisque souvent le moteur de recherche à l'intérieur de 2,5 millions de documents, c'est pas évident de trouver directement ce qui nous intéresse. Donc cet accès simplifié permettra d'enrichir la navigation dans Gallica. Est-ce que vous avez des questions ?
Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette présentation que nous avons voulu la plus panoramique possible, tout en faisant un focus sur un partenariat numérique. Nous sommes à votre disposition pour répondre à des questions. Ici, ou plus tard, ou par mail, nous avons omis d'indiquer notre adresse mail, mais elles sont extrêmement faciles à la BNF, nom, prénom, @bnf.fr. Mais ne vous privez pas de nous poser quelques questions. On a été abondamment interrompus, donc on peut s'autoriser de prolonger la séance.
Voilà le micro. Il est derrière le micro. En fait, je me posais la question sur l'équipe informatique qui est derrière. Vous avez parlé de la mise à niveau d'un logiciel pour les mobiles comme si c'était très facile. Donc, je suis assez émerveillée.
C'est très compliqué. l'équipe informatique, le DSI de la BNF, c'est une centaine de personnes. Mais c'est une centaine de personnes qui ne travaillent pas que sur Gallica. Vous avez le catalogue général, tous les postes informatiques. L'équipe Gallica proprement dite, c'est à peu près 5 ou 6 personnes en interne. Et après, des sociétés prestataires à l'extérieur. Donc pour les applications, On n'avait pas les compétences en interne pour développer ces applications. Donc c'est un marché qui a été passé, qui a été remporté par une société spécialisée qui a fait cette application.
Bonjour. En ce qui concerne les outils de partage ou la présence de Gallica sur les réseaux sociaux et autres, on va dire, appropriation des internautes ou Gallicanautes, est-ce que vous avez des retours? J'avais lu certaines enquêtes qui avaient été publiées par la BNF, mais la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on peut savoir si Gallica et cette valorisation va au-delà des simples chercheurs, en fait, sur Internet. C'est assez vaste, mais quelques éléments.
Justement, l'intérêt de cette présence sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir un retour direct des utilisateurs et un dialogue permanent. Chaque fois, sur Facebook, par exemple, on envoie un post par jour. Donc, vous avez régulièrement entre 500 et 600 personnes qui cliquent sur « j'aime ». Donc là, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais par contre, vous avez beaucoup de commentaires. Et des commentaires souvent très positifs, ce qui renforce l'ego des personnes qui travaillent sur ces réseaux. Mais c'est très satisfaisant, justement, de voir les... Alors, c'est des échanges... pour dire souvent merci, c'est formidable de mettre toute cette culture en ligne gratuitement, merci de partager tout ça, mais aussi des questions très précises sur il y a une erreur dans telle notice, on ne comprend pas la manière dont il faut zoomer dans Gallica, voilà, enfin, tout type d'échanges, et qu'on peut quantifier de manière très précise, puisqu'il y a des statistiques qui sont extrêmement précises.
Et parmi les différents amis Facebook, les bibliothèques ou institutions partenaires ne représentent pas une... On remarque sur 30 000, donc comme il y a beaucoup d'internautes qui ne sont pas des bibliothèques, je suppose.
Il y a un certain nombre de bibliothèques qui aiment, qui relaient, qui partagent. Certaines sont vraiment très, très actives. Hein. Je citerai par exemple le musée Carnavalet, qui est qui sur Facebook est un des plus actifs pour relayer les documents de Gallica. Et donc en fait c'est une dissémination progressive, virale comme on dit. Ça passe très très aisément d'une page Facebook à une autre, et les conditions d'utilisation des documents permettent cette réutilisation virale. Ça, c'est le poste du jour.
Non, c'était en début de semaine. Donc, vous voyez un album sur, la recherche du Graal, mise en avant d'un manuscrit sur l'histoire du Saint Graal de Robert de Boron. Vous avez 371 personnes qui ont cliqué sur « J'aime » et 7 commentaires. Enfin, bon, après, vous pouvez aller voir tout ce qu'il y a sur cette page Gallica sur Facebook. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte Facebook pour y aller. Donc c'est librement
récemment
accessible.
Nous avons mis en évidence sur Facebook le manuscrit, le projet de constitution de 1791 annoté de la main de Robespierre, qui est dans les collections de la Bibliothèque nationale et que nous avons numérisé. Guillaume l'a montré ici. Il y a, je ne sais pas combien il y a de commentaires, 28
29 commentaires.
Et combien de personnes
600 personnes.
Voilà. Et les commentaires montrent qu'il y a... les gens discutent vraiment, c'est-à-dire commentent à la fois le document, mais commentent aussi la situation politique actuelle, faisant référence à deux États fort différents de la nation. Voilà, donc on dialogue en permanence et on a des retours immédiats, en fait, et on est convaincu que ce document-là a été relayé des centaines de fois partout, en France comme à l'étranger. Il y a beaucoup de commentaires étrangers, beaucoup d'Espagnols, beaucoup d'Américains.
Et des comptes de particuliers, mais aussi des comptes institutionnels, de musées, de bibliothèques. Alors après, un public sur Facebook plus féminin que l'ensemble des visiteurs de Gallica. Bon, après, évidemment, c'est beaucoup de chercheurs, de professionnels de bibliothèque, de bibliothécaires, mais aussi des enseignants, des lycéens, avec une petite communauté de gens qui réagissent évidemment beaucoup plus souvent. Quoi. Par exemple, pour les énigmes du vendredi, c'est une trentaine de personnes qui viennent tous les vendredis pour. Ils attendent avec impatience le lancement de l'énigme. Alors on les prévient, on leur dit rendez-vous à 15h pour l'énigme du vendredi. Et alors des fois, ils nous disent je ne suis pas disponible, je dois partir en réunion.
Mais d'ailleurs, il y a le message d'annonce de l'énigme de vendredi doit être en ligne, là. Celle d'aujourd'hui.
Oui. Pour entrer dans la légende, il vous faudra, Gallicano, de faire preuve d'imagination et de créativité. Rendez-vous à midi pile.
C'est maintenant. Voilà. Avez-vous d'autres questions ?
Les gens disent on ne pourra pas participer à l'énigme parce qu'il y a Roland Garros. Bon.
Et Guillaume est un des animateurs de Gallica sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Mais Guillaume ne fait pas ça à plein temps. C'est un petit morceau de son temps et il y a une équipe de 6 personnes qui dégage un petit pourcentage du temps. Chacune de ces 6 personnes étant responsable des pages ou des réseaux pendant une semaine. Voilà, donc n'hésitez pas à lui poser la question, des questions plus précises sur les réseaux sociaux. Eh bien, merci à vous et bonne fin de congrès. Merci.